Galant qui a été rendu public hier. On nous dit que la faute revient principalement aux hauts dirigeants de la Société l'assurance automobile du Québec qui ont volontairement caché de l'information concernant les dépassements de coûts et des problématiques importantes. On dit qu'une partie du blâme revient à des membres du gouvernement qui n'ont pas bien agi lorsqu'ils ont finalement reçu des informations qui auraient dû être traitées comme des gros drapeaux rouges. Et là, on vise les gens de la coalition Avenir Québec. Geneviève Guilbeault, elle, qui a été visée, admet que le gouvernement aurait pu faire mieux, mais elle a dit qu'elle n'était pas parfaite d'abord et avant tout. Elle a dit aussi qu'elle s'en souvenait pas là, des trucs dans le dossier. Nous, on a pensé au départ qu'elle avait menti sous serment. Elle a dit « J'ai pas menti, je l'avais juste oublié. »
Oui, j'ai oublié pas le souvenir expérientiel de...
Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? François Legault dit « Hey, je vais poursuivre les hauts dirigeants de la SAAQ. »
Bonne idée!
Qu'est-ce que l'opposition en pense? On a le plaisir d'en jaser avec Pascal Paradis, qui est député du PQ dans Jean Talon et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de cybersécurité du numérique. Monsieur Paradis, bon matin.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci d'être là. Vos premières constatations sur le rapport Galant, vos observations, c'est quoi?
C'est un rapport qui est dévastateur. Dévastateur pour la Société de l'assurance automobile du Québec qui a vécu avec un... Le juge Galant appelle ça les années du mensonge de 2019 à 2023. Donc ça, il y a beaucoup de correctifs à apporter à ça, mais c'est aussi dévastateur pour le gouvernement de la CAQ. Pour ce qu'il a prétendu en matière d'honnêteté, en matière de vérité, les conclusions factuelles du rapport contredisent directement les propos même qu'a tenu le premier ministre encore hier.
En fait, il a joué sur les mots, là.
Ben, il a joué sur les mots. C'est plus que ça. En fait, le gouvernement de la CAQ, le premier ministre en chambre à l'Assemblée nationale, avoue les médias, dit depuis... 2 ans environ, en fait, depuis la sortie du rapport de la vérificatrice générale en février de l'année passée, qu'ils ne savaient rien, qu'on leur a caché l'information et qu'on leur a menti. C'est vrai pour une partie de la période de temps concernée, mais au moins à partir de juin 2023, la commission dit le contraire, ce qui veut dire que le gouvernement nous a menti parce que La commission dit, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement complet dans l'attitude de la SAC. Donc, la reddition de compte était faite tout à fait conformément à ce qu'elle devait être. On expliquait les dépassements de coûts. On expliquait qu'on était en dérapage complet dans le projet. Il y a eu une fameuse réunion, notamment en juin 2023 avec la ministre Guilbeault. Tout a été mis sur la table. Et le commissaire dit, je le cite, ce revirement dans l'attitude de la société d'État n'a pas empêché les membres du gouvernement d'affirmer que les dépassements de coûts leur ont été cachés. Alors, j'aurais préféré qu'ils le disent très franchement, le commissaire, que à partir de ce moment-là, le gouvernement lui-même ne dit pas la vérité, mais je veux dire, on peut pas le dire plus clairement que c'est ça qui s'est passé.
Parce que hier, ce qu'a mentionné M. Paradis, François Legault, il a dit « Je jure que jamais mon gouvernement n'a été informé que le coût révisé total du projet dépassait le milliard de dollars. » Donc, il jouait avec les mots. Il a pas dit qu'il était pas au courant. Il a dit que pour le dépassement de coût d'un milliard de dollars, ça, il était pas au courant.
Vous avez raison quand vous dites ça.
C'est un manipulateur.
Vous mettez le doigt sur quelque chose parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune indication dans le rapport de la commission à l'effet qu'à un moment donné, on leur a dit « Hey, c'est 1,1 milliard le dérapage. » Sauf ce qu'il importe. Ce qu'il importe ici, c'est ce qu'il ne dit pas. Il ne dit plus la même chose qu'il a dit pendant un an et demi, qu'on ne savait rien. Personne ne nous a parlé des dépassements de coûts. Parce que là, ce qu'il dit, encore une fois, c'est démenti. Je vais vous citer un autre passage parce que c'est important que les gens sachent ce que le rapport dit exactement. Et là, ici, on recule, imaginez donc, en 2021, je cite la commission, en février 2021, la direction de la SAAQ a rencontré le ministre des Transports, François Bonnardel, et lui a exposé clairement que le budget de développement du programme ne se limitait pas à un contrat de 458 millions, mais comprenait des coûts internes qui portaient le coût d'implantation de la suite de PJI à 682 millions de dollars. En septembre 2021, le cabinet de François Bonnardel avait alerté le cabinet d'Éric Kerr, etc., de ce dépassement. Donc là, j'arrête la citation ici, là, mais vous voyez, ça contredit directement ce que le premier ministre du Québec nous a encore affirmé hier.
J'ai deux questions à vous poser par rapport à votre ancienne job d'avocat. Vous êtes membre du barreau. Vous avez aussi, pour l'international, en droit international. La première chose, François Legault qui menace de poursuivre l'administration de la Société d'assurance automobile du Québec, dans le cas où il obtient la permission de le faire, qui va payer en bout de ligne la Société d'assurance automobile du Québec? C'est-tu les gens personnellement qui sont en haut ou c'est carrément la population?
Ben là, vous venez de dire le mot-clé « population ». Je comprends, moi, aujourd'hui, que les gens sont choqués. Les gens m'en parlent, d'ailleurs, dans la rue. Les gens sont choqués parce que c'est notre argent. Là. C'est l'argent des taxes, des impôts qu'on paye qui a été gaspillé. Puis là, on apprend que il y a des ministres qui avaient l'information puis qui auraient pu faire quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Ils ne l'ont pas fait. C'est choquant. Là, on veut dire, ben l'imputabilité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Qui va être imputable? Je prends acte que le gouvernement dit qu'on va analyser la possibilité de poursuite. Moi, je vous dis que je sais qu'il y a des clauses d'immunité pour les membres des conseils d'administration des sociétés d'État. Maintenant, s'ils ont agi de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis d'accord qu'on analyse ces possibilités-là. Est-ce que ça va pouvoir être possible? Puis qui, à la fin, va être capable de payer? Parce qu'on parle de centaines de millions. Vous comprenez que je connais pas la situation financière des personnes impliquées, là, mais je serais curieux je penserais pas que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles pourrait avoir ce genre de somme-là dans son compte en banque. Donc, quelles sont les perspectives réalistes, je ne le sais pas. Mais l'important ici, c'est que je note qu'il s'empresse de dire qu'il va chercher de l'imputabilité auprès des personnes qui auraient menti à la SAC, mais qu'il ne dit pas la même chose de son propre entourage,
exact,
des ministres concernés. Alors, moi, je l'ai dit hier, mais il y en a une dont le rapport contredit directement le témoignage et ce qu'elle nous a affirmé en chambre.
C'était ma deuxième question, M. Paradis. Geneviève Guilbeault est une femme extrêmement brillante avec une mémoire qui est pratiquement sans faille. Elle est capable de faire des conférences de presse pendant 45-60 minutes sans aucune note. Et ma question, c'est devant M. Galland, est-ce qu'elle s'est parjurée parce qu'elle était sous serment? Selon vous, est-ce qu'elle s'est parjurée ou c'est simplement un petit oubli de sa part?
Bien, ouais, je vais vous citer une nouvelle fois le rapport. Hein, pas le résumé, le vrai rapport, page 401-402. Voici ce que la commission dit, puis après ça, les auditeurs pourront en tirer leurs conclusions. Assez facilement, je pense. Je cite. « La commission retient que la stratégie contractuelle visant la conclusion du deuxième avenant » là, c'est moi qui parle, le deuxième avenant, là, c'est celui qui a fait exploser les coûts, a bel et bien fait l'objet de discussions avec la ministre Geneviève Guilbeault lors de la rencontre du 20 juin 2023. Rien n'indique qu'à ce moment-là, la SAC cache quoi que ce soit au gouvernement. » Fin de la citation. Puis après ça, le juge Galland continue en disant que en juillet, l'information s'est rendue à la secrétaire générale du gouvernement, ça c'est la plus haute fonctionnaire du Québec, proche du premier ministre, et que le mois suivant, en août 2023, le chef de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, avait l'information. Pas que l'information était noyée dans plein de choses. Qu'il a eu accès à l'information. Donc, le juge Galland conclut très clairement que ça a été discuté, puis il y a d'autres passages. Là,
parfait, mais est-ce que Geneviève Guilbeault s'est parjurée, oui ou non?
Bien, elle marche sur une ligne fine, puis là, je fais attention, là, parce que je vous parle pas comme avocat, je vous parle comme député de Chantalon.
Hein? Les techniques d'avocat ressortent, M. Paradis, là.
Mais vous vous souvenez, on s'était parlé au lendemain, je pense, de son témoignage.
Oui, oui.
J'avais dit que j'avais été étonné à quel point ça avait été catastrophique, parce que son témoignage avait été taillé en pièces par les avocats de la commission, qui avaient des documents qui démontrait que c'était le cœur de la discussion et que ça avait été discuté. Maintenant, elle dit, moi, je m'en souviens pas. C'est une chose. Mais ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle a affirmé à plusieurs reprises en chambre et devant les médias, c'est qu'elle n'avait pas eu l'information, que l'information s'était pas rendue à elle. Le gouvernement ne cesse de dire qu'on leur a menti. C'est pas ce que la commission conclut. Mm-hmm. La commission conclut, c'est que l'information, il l'avait. On leur a dit, et donc c'est donc dire que la ligne du gouvernement, en nous disant qu'on leur a menti, qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas l'information, c'était un grand mensonge.
Monsieur Paradis, plusieurs auditeurs nous écrivent, maintenant c'est quoi la suite? Si le PQ prend le pouvoir au 2 octobre prochain, comment on va gérer les transformations numériques?
Ben le rapport, puis ça, je veux que les auditeurs l'entendent parce que on peut tellement être découragé devant tout ce qu'on lit puis devant tout ce qu'on entend, mais il y a des solutions et le rapport en contient des très intéressantes qui rejoignent une grande partie des solutions dont on a discuté ensemble dans des entrevues précédentes en matière de normes pour la reddition de comptes, de ce qu'on exige, d'expérience pour siéger au conseil d'administration des sociétés d'État concernées, la façon dont les sociétés d'État communiquent avec les ministres, clarifier aussi les contours de la responsabilité ministérielle. Donc, il y a des solutions intéressantes. Le Parti québécois l'a déjà dit qu'on allait aller vers là, une refonte des règles de gouvernance, des règles des sociétés d'État. Mais il y a aussi le côté ministériel. Et ça, le côté ministériel, c'est une attitude et ce n'est pas vrai que ça a toujours été comme ça et que ça va toujours être comme ça, que quand tu te fais parler de dépassement de coûts et de dérapage de centaines de millions, tu ne fais rien. Là, ici, là, on parle là, de chefs de cabinet, des ministres concernés qui étaient au courant.
Donc, ça veut dire, sous le PQ, si jamais une situation comme ça arrivait, il y a un ministre qui va être imputable et il va perdre sa job.
Ben, pour la transformation numérique, oui, parce qu'on est d'accord. Vous savez, on en a discuté ensemble que là, ce qui se passe, c'est que la commission nous dit quelque chose que tout le monde va comprendre facilement. Le ministère de la Santé, là, sa compétence est en santé, en éducation, ben, c'est l'éducation. La SAC, sa job, c'est de s'occuper de l'assurance automobile des Québécois. Mmh. Et là, il était pogné dans un immense contrat, un plan là, d'une nouveauté extraordinaire de transformation numérique. C'est pas ça sa compétence, puis il était dépassé parce qu'il n'avait pas la compétence à l'intérieur de l'appareil pour gérer ça. Puis le contrat était trop gros, puis il était accordé trop rapidement à un seul groupe pour l'ensemble de la durée. Puis là, fait que là, on dit non, il faut y aller par étapes, mais surtout, il faut confier ça à des gens qui ont l'expertise. Alors là, les gens vont dire, ah là, on veut encore créer une patente, ça va coûter plus cher. Ce que la commission dit, et ce qui est à peu près l'avis de tous les experts, c'est qu'en recréant l'expertise puis en la concentrant à un endroit au gouvernement, on va épargner des centaines de millions qu'on a gaspillés parce que vous le savez, là, que là, demain, on va parler de ce qui se passe en santé, puis après ça, on va passer de ce qui se passe dans d'autres domaines. La transformation numérique, c'est difficile actuellement. Ouais. Il faut qu'on ait la compétence. Ouais. Oui, ça prend un ministre qui est imputable. Mais là, il y en avait des ministres imputables, mais ils refusent aujourd'hui encore d'admettre la vérité, puis ils refusent leur responsabilité ministérielle, et ça, c'est inacceptable.
Pascal Paradis, si demain il y avait des élections, c'est le PQ qui serait porté au pouvoir, on fait quoi avec tous les projets informatiques qui sont sur la table présentement? Est-ce qu'on met un hold?
Ah bien, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, d'ailleurs, qui avec raison, là, ont été mis sur pause, parce que là, si on ne peut pas reproduire les mêmes problèmes, les mêmes façons de faire qui vont nous faire gaspiller beaucoup d'argent partout. Il y en a des projets qui vont mieux, il y en a qui ont été réussis, il y en a d'autres, vous le savez, là, dans le domaine de la santé notamment, ça va pas très bien. Puis c'est encore le même genre de choses. Là, on est attaché avec des cabinets à qui on paye des fortunes puis qui livrent pas la marchandise. Donc ça, il faut reviser tout ça puis il faut commencer à être dans cette optique dont on vient de parler, vous et moi, c'est-à-dire de développer de l'expertise puis de la centrer à un endroit où on va mener ces projets-là. Puis c'est le ministère actuellement de la cybersécurité et du numérique dont on n'entend pas tellement parler. Encore une fois, on entend parler beaucoup des ministres sectoriels, mais ça, c'est une bibitte qui a été créée par la CAQ, imaginez donc, une autre structure, puis qui n'est pas exploitée puis qui n'a pas été utilisée comme elle aurait dû l'être. Le rapport, d'ailleurs, dit qu'un des ministres, le mot est presque, je me souviens pas si le mot est utilisé de manière exacte dans le rapport, mais l'impression que ça donne, c'est que le ministère de la cybersécurité et du numérique, sous Éric Kerr, se désintéressait de ce qui se passait à la SAAC, alors que ça avait été créé pour ça. C'est choquant, ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut redresser la barre pour la gestion des contrats de transformation numérique du gouvernement.
Pascal Paradis, bonne semaine.
À vous aussi.
Au revoir. Bye bye. Au revoir. Pascal Paradis, qui est député du PQ dans Jean Talon et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de cybersécurité et du numérique, il réagissait au rapport Galland. Il donnait un peu ses observations puis ses façons de faire peut-être qui seraient différentes advenant le cas où le PQ rentre au pouvoir. Moi, c'est assez simple. Pour ce qui est de l'octroi des contrats, j'enverrais tout ça au privé. Puis, il n'y en aurait pas de dépassement de coûts. Tu sais, une application comme SACLIC, là, dans des entreprises privées, ce qu'on me dit, c'est que ça peut coûter quelques dizaines de milliers de dollars, mais c'est pas vrai que ça doit dépasser le 1 point quelques milliards de dollars. Puis si l'entreprise privée dit « on est capable de te le faire à 100 000, 500 000, 200 millions », ben ça doit être respecté d'abord. Puis tu dois avoir la responsabilité de dire à cette entreprise-là, ben regarde, je suis vraiment désolé, mais il n'y en aura pas de dépassement de coûts.
Moi, j'en reviens avec mon idée.
Prenez des assurances au pire.
Tu prends le meilleur en programmation informatique au Québec, tu lui donnes un salaire qui va faire en sorte qu'il va te dire oui, puis lui, il gère ça avec les entreprises privées. Ciao, bye, t'as réglé ton problème. Parce que lui, tu peux le faire sauter si ça marche pas.
Mais il n'existe pas, ce gars-là, actuellement, au gouvernement
du Québec? Je suis sûr qu'il existe. Ben non, pas au gouvernement du Québec. Écoute, là, ça va paraître très dur, ce que je vais dire, pour les gens qui, comme moi, gagnent un salaire moyen, là. Mais on paye nos top guns en informatique 250 000 piastres. Ils gagnent des millions de dollars dans les entreprises privées. Ils viennent pas au gouvernement. Faut dépiller le cash.
Tu sais, de savoir qu'Éric Kerr était responsable de ça, Éric Kerr a son diplôme d'études au collège CDI, là.
Non, mais c'est ça. Ça fonctionne pas.
Tu sais, puis il a beau avoir écrit sur son CV qu'il était à l'université, alors que c'était faux. Là.
Oui.
Il s'était fait prendre, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais comment un gars peut devenir ministre en n'ayant pas de skills dans le domaine où on le place?
En effet.
Tu sais, puis on a... En même temps, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Yann, en santé, on a mis des docteurs, ça s'est-tu amélioré? » La réponse, c'est non. Mais au niveau de l'informatique, il me semble que c'est plus concret. C'est des 1, des 0, des 1, des 0.
Au niveau de l'informatique, là, quand tu changes les systèmes informatiques, là, je l'ai vécu dans différents moments de ma carrière, là, dans différentes entreprises, c'est compliqué en crime. Là. Quand les spécialistes te parlent, là, et crime que j'entendais chinois souvent... Là, puis là, il faut que tu poses des questions, il faut que tu précises, il faut que tu ailles chercher la bonne information. Mais ça te prend tout le temps quelqu'un qui a des compétences minimum. Je pense pas qu'on va être capable de trouver un ministre qui serait capable de faire une transformation numérique.
Parce que François Bonnard l'a dit hier, je l'ai entendu en entrevue, il a dit « Moi, je suis qui pour dire à quelqu'un qui est là depuis des décennies, on suit pas le bon chemin ».
Ouais.
Ça veut dire que tu viens de démontrer que tu as atteint le principe de Peter. Là.
Exactement.
On t'a mis dans une position où tu n'es plus capable d'upgrader tes qualités. Tu es là, puis tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses confiance aux gens qui sont en face de toi, parce que sinon, tu as de l'air d'un gros épais.
Ben oui, tu n'as pas le choix. C'est là que tu poses des questions, puis tu creuses. Puis à un moment donné, tu te dis « Oups, c'est à ta minute, là. Tu es en train de me repousser ça d'un an. Ça veut dire qu'il va y avoir des coûts additionnels. Ça va être quoi les coûts additionnels? Pourquoi tu repousses ça d'un an? Tu veux comprendre le plus possible. » Mais c'est pour ça que moi, j'embaucherais le spécialiste. Écoute, je l'ai dit, là, je lui donnerais des millions de dollars s'il faut par année. Pour qu'il nous gère ça, on va être gagnant en bout de ligne. Il va nous sauver plein d'argent.
Quelqu'un qui me dit « Ce que vous ne dites... » Ça me fait rire, c'est Martin qui m'écrit. Il dit « Ce que vous ne dites pas et ne savez pas, il n'y a pas juste le site qui a été modernisé, tout le backbone aussi, tous les programmes qui dataient des années 90. En fait, c'est pas les années 90, là. C'est 1978. Ça datait de la paillette. »
Ouais. non, c'est ça. C'était des...
T'as pas le choix. Quand on a parlé au porte-parole de la SAAQ, quand on nous parlait qu'on travaillait sur le programme SACLIC, puis il y avait eu des ratés, on avait parlé avec le porte-parole, puis il nous avait dit 1978, il était temps de le changer. Puis j'avais dit, mais pourquoi vous vous êtes pas gardé un système qui roule?
Ouais, un système B, là.
En arrière. Puis on dit, ben ça, c'est une décision du conseil d'administration qu'on y allait directement avec le nouveau programme, et c'est ce qui fait que ça a planté. Et quand Martin dit, hey, ce que vous ne dites pas et ne savez pas, non, on était au courant. C'était 1978. Ça datait de l'âge de pierre, les anciens programmes, là.
Mm-hmm.
Fait qu'il était temps de le changer. Pourquoi ça a duré si longtemps, je sais pas, là. Mais il n'en demeure pas moins qu'on l'a échappé puis popé. Actuellement, dans mon cas à moi, à une seule exception, puis je l'utilise relativement assez souvent, là, ça clique, à une seule exception, parce que je n'étais pas capable de payer mes plaques de charge, j'en ai aucune idée, c'est quand même assez banal, là. J'ai dû me rendre à la SAC. Mais sinon, l'application va super bien.
Moi aussi, l'application va super bien. Tu sais, il y a une fois que je suis tombé dessus, puis il est en maintenant, ça c'est correct, là, je te retourne plus tard en journée, là. C'est pas grave, là, ça. Ça arrive à n'importe quel site.
En maintenance, mais quand c'est ça clique, c'est assez inquiétant.
Ben, c'est inquiétant. Tu te dis, il va être en maintenance sûrement pour 48 heures. Fait que tu y vas dans 72 heures. Mais blague à part, c'est ça, il nous manque vraiment la personne pour diriger ça. Parce que t'en as pas le choix. Là, ta question était super pertinente. Est-ce qu'on met ça sur le hold à Pascal Paradis? Mais tu peux pas vraiment mettre ça sur le hold avec le retard qu'on a pris dans ces infrastructures informatiques-là. Pas le choix de continuer, mais là, il faut que tu continues
comme
avec des bonnes personnes en tête.
Je le répète, là, pour avoir jasé avec des entrepreneurs qui font affaire avec la ville, des fois, c'est 3 fois le prix que ça coûte parce que c'est compliqué de faire affaire avec la ville.
Le commissaire Galland était super clair là-dessus. C'est une des recommandations fortes de... On met pas ça, on met pas tout sur hold là, en paniquant parce qu'il faut arrêter. Parce que là, on va prendre du retard, qu'il n'y aura pas de maudit bon sens rendu en 2026. Fait qu'il faut continuer. Là, il faut continuer de la bonne façon.
Max, 7h36, on parle un peu de sport. Qu'est-ce qui se passe aux Olympiques?
Il y a 2 matchs de hockey présentement. L'Allemagne contre la France et la Suisse contre l'Italie. On est en ronde de quart de finale chez les hommes, pour savoir qui va pas...
On est en huitième de finale.
On est en huitième de finale pour savoir qui va accéder au quart de finale. Pas de surprise à date. Suisse, c'est 2-0 contre l'Italie. Allemagne, c'est 3-1 face à la France. Il y aura 2 autres matchs plus tard. Tchéquie-Danemark, 10h40 pour savoir qui va affronter le Canada. Soit à moins d'une gigantesque surprise, là, ce sera la Tchéquie. Quoique le Danemark a montré de belles choses par moment dans ce tournoi-là. Mais bon, si la logique est respectée, ce sera la Tchéquie. Et la déception de la ronde préliminaire, la Suède qui va affronter la Lettonie dès 15h10. Encore là, ce serait une gigantesque surprise que la Lettonie passe. Ça devrait être la Suède qui va aller affronter après ça les États-Unis en quart de finale. Et là, dans ce match-là, il y aura une vraie de vraie gigantesque déception pour l'équipe perdante entre les États-Unis et la Suède. Sinon, pour ce qui est des Canadiennes, ben on accède à la finale grâce à une victoire de 2-1 face à la Suisse. Le Canada qui est largement négligé en vue du match de médaille d'or de jeudi face aux États-Unis. Là. La cote qui était de 6 la dernière fois que j'ai checké. Fait que les livres à Vegas qui ne s'attendent vraiment pas à voir le Canada gagner ce match-là face aux États-Unis. À surveiller aujourd'hui, là, il y a des conditions météo qui causent des problèmes, entre autres pour en surf des neiges, le final en slopestyle. Ça avait été reporté quand j'ai checké la dernière fois ce matin. On surveille ça parce que la Québécoise Laurie Blouin en est à son dernier tour de piste aux Olympiques. Patinage de vitesse, longue piste poursuite chez les femmes. Demi-finale 8h52, finale 10h47 avec des Canadiennes dont Valérie Maltais qui seront en action. Et là, ben encore là, ça va dépendre de la météo, là, mais Dylan Deschamps, le Québécois, en finale de l'épreuve du Big Air, en épreuve de ski acrobatique, ça c'est en début d'après-midi.
Merci beaucoup. On fait une courte pause. S'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous voulez communiquer avec nous, c'est le 418-971-1021 Max.
Ça s'est complexifié beaucoup durant notre discussion avec M. Paradis, entre autres dans le secteur des ponts, direction nord, 40 Est entre Duplessis et Henri IV, bon ralentissement. Capitale Ouest entre Beau-Royal et Laurentienne. Capitale Est entre Lormière et Robert-Bourassa. Robert-Bourassa Sud vers le Bourgneuf. Laurentienne Sud vers la capitale, le bon ralentissement qui va commencer hauteur Jean-Talon-Ouest, Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest et plus haut quand tu roules vers Shannon dans le coin d'entrée de la base militaire, bon ralentissement aussi.
Après la pause, on jase avec Max, il va nous parler d'un peu d'actualité en manchette.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la